Mes amis, aujourd'hui nous allons vous présenter le bienheureux Jean Resbrock, qui est un saint flamand et très peu connu. Jean de Resbrock, Jan van Resbrock en flamand, est né en 1293 dans le petit village de Resbrock, village du Brabant, aujourd'hui englobé dans l'agglomération bruxelloise. Sa famille était très honorable et très aisée. Dès sa plus grande enfance, il aimait s'isoler dans la nature pour prier. À l'âge de 11 ans, il fut confié à un oncle, chanoine de Sainte-Gudule, maître Jean Inkart, qui l'éveilla très tôt aux vérités de l'Évangile. Puis, Jean alla dans une école pour y apprendre les lettres, la philosophie et les sciences humaines et divines. Jean de Resbrock devint prêtre à 24 ans, en 1317, et exerça son ministère durant 25 ans à Bruxelles, comme chapelain de Sainte-Gudule, en compagnie de maître Inkart, son oncle, et de Franco van Coudenberg, tous chapelains de la même église et animés des mêmes désirs de vie vertueuse. Prêtre séculier, Jean décida de suivre le Christ, humble, dans la voie de l'humilité, et de se conformer, autant qu'il le pourrait, à ce modèle, au point de passer même pour méprisable et sans valeur aux yeux de tous ceux qui ignoraient sa vie très sainte. Cependant, il eut l'occasion, à Bruxelles, de s'opposer fortement à Blomardine, une femme qui fut l'initiatrice d'une secte satanique, dirions-nous aujourd'hui, secte qui attirait de nombreux adeptes. Il semble que Mardine dirigeait cette secte du libre-esprit vers 1307. L'homme de Dieu s'opposa avec vigueur à ces erreurs néfastes qui se multipliaient, et bien qu'il eût à soutenir un grand nombre d'adversaires, il put démontrer pleinement la fausseté des écrits de cette femme perverse. C'est pendant sa présence à Bruxelles que Jean de Resbrock rédigea ses premiers ouvrages, écrits en flamand, en réalité en dialecte brabançon. Ses ouvrages, parus entre 1330 et 1336, constituent l'essence même de sa doctrine, fondée essentiellement sur son expérience mystique. En 1343, Jan van Resbrock, que nous appellerons le plus souvent Resbrock, ou encore le dévot prieur, décida de vivre dans la solitude avec son oncle et Franco van Coudenberg dans l'ermitage de Groenendael dans la forêt de Soignes, mis à leur disposition par le duc Jean III de Brabant en 1343. Le frère Jean van Leuven, surnommé le bon cuisinier, devait bientôt rejoindre la petite communauté naissante qui, le 10 mars 1350, adopta la vie des chanoines réguliers de Saint-Augustin ainsi que leurs règles. Resbrock put alors s'adonner tout entier à la contemplation et se livrer à l'influence divine. Lorsqu'il se sentait envahi par l'inspiration, Resbrock s'enfonçait dans la forêt toute proche et se mettait à écrire tout ce qui lui venait à la pensée. Puis il retournait au monastère et partageait avec ses frères les enseignements merveilleux qu'il avait reçus. Son influence bénéfique était telle qu'on lui donna le surnom d'admirable. Pèlerins et fidèles affluaient pour l'écouter et prier avec lui. Beaucoup d'hommes remarquables de Flandre, de Strasbourg, de Bâle et d'autres villes du Rhin, souvent élevés en dignité, venaient à Resbrock, désireux de le voir et de bénéficier de ses conseils. Et le bon prieur se montrait si prévenant envers eux qu'il semblait avoir été prévenu par avance de leur venue. Parmi les nombreux visiteurs qui vinrent trouver le bon prieur, l'un des principaux fut un dominicain, docteur en théologie, Jean Toller, très célèbre tant à cause de sa rare érudition que de sa grande sainteté de vie. Toller visitait fréquemment Jean Resbrock, car il l'avait en grande vénération. Cela transparaît fréquemment dans les écrits de Toller, dans lesquels on peut remarquer bien des points empruntés sans aucun doute à l'admirable Resbrock. Cela montre aussi combien Toller, comme de nombreux visiteurs du dévot prieur, progressa auprès de lui dans la connaissance de la vie intérieure et contemplative. Durant ces 16 dernières années, Resbrock, devenu presque aveugle, emmenait fréquemment avec lui dans la forêt un frère chargé de transcrire sur des tablettes ce qu'il dictait sous l'action de l'Esprit-Saint. Ainsi, réfugié dans la forêt, il dictait de nombreux ouvrages. Quand il eut atteint sa 88e année, Rosbrock commença à voir ses forces décliner. Il comprit qu'il allait mourir bientôt. Il se disposa donc à mourir saintement. Il demanda à être transporté par les frères à l'infirmerie commune des frères. Là, atteint d'une grave attaque de fièvre et souffrant en même temps de dysenterie, il passa sur son lit presque 15 jours dans une grande faiblesse. Enfin, au milieu de ses frères, en prière, et après s'être recommandé dévotement à eux, tout présent d'esprit et le visage radieux, il s'endormit heureusement dans la paix, en un très doux soupir et sans les signes ordinaires des agonisants. Il avait plus de 88 ans et était prêtre depuis 64 ans. Nous savons que Jan van Ruusbroeck est mort en 1381 en odeur de sainteté. Alors pourquoi tant de retard pour reconnaître sa sainteté? La cause de béatification de Rosbrock fut introduite grâce à l'archevêque de Malines en 1624. Elle dut être suspendue en 1627 en raison des guerres qui affligeaient les Pays-Bas. En 1783, le chapitre de Sainte-Gudule de Bruxelles obtint un office et une messe en l'honneur de Jan Rosbrock, puis tout fut de nouveau interrompu par la Révolution. Enfin, en 1883, le cardinal Gossens put réintroduire la cause et obtenir la reconnaissance du culte. Rosbrock fut enfin béatifié par Pie X le 9 décembre 1908. Les livres de Rosbrock sont tous des livres mystiques. Ils se répandirent très rapidement du vivant de son auteur. Nous les citerons plus loin. Notons ici que la production littéraire de Rosbrock reflète l'activité d'un conseiller spirituel attentif, discret et retiré. On a parlé d'une mystique essentialiste sur la nature de laquelle les erreurs d'interprétation sont aisées. Parlons maintenant de la mystique et de la spiritualité de Rosbrock. La sainteté de Rosbrock était telle que ses hagiographes rapportèrent de nombreux miracles destinés à montrer les faveurs que Dieu lui avait réservées tout au long de sa vie. Ainsi, son premier biographe raconte que très souvent, le dévot prieur, ainsi que l'on appelait Rosbrock, se hâtait vers les bois et, retrouvant sa retraite solitaire, s'asseyait sous un arbre. Un jour, comme il était resté plus longtemps que d'habitude, les frères, inquiets, se mirent à le chercher à travers les chemins de la vaste forêt. Par hasard, un frère qui lui était assez intime, le cherchant avec soin, remarqua de loin un arbre qui semblait, par en haut, tout enveloppé d'un rayon de feu. S'approchant alors en silence, il trouva l'homme de Dieu assis sous cet arbre, et encore tout ravi, hors de lui, par la grande ferveur de la douceur divine. De ceci, il apparaît clairement de quelle ferveur intérieure d'esprit et de quelle splendeur il était enflammé, en même temps qu'illuminé, alors que le rayonnement en paraissait en dehors d'une façon si manifeste. On raconte aussi qu'à force de méditer la passion du Seigneur, Rosbrock parvint à une telle abondance de la grâce divine que souvent il s'élevait dans le ravissement divin au-dessus de lui-même. Les lévitations de Rosbrock ont souvent été constatées par ceux qui vivaient proches de lui. Les hagiographes de Rosbrock racontent que souvent notre Seigneur Jésus-Christ visitait son fidèle serviteur avec une douceur très intime et l'enrichissait de multiples grâces. Ainsi, un jour, il lui apparut visiblement avec la bienheureuse Vierge Marie, sa glorieuse mère, et tous les saints de la cour céleste. Jésus lui parla « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. » Et l'embrassant, il dit à sa mère et au cœur des saints présents « Voici mon enfant d'élection. » En retour, le dévot prieur manifestait pour le Seigneur Jésus une grande familiarité et un amour hors du commun. De plus, en plusieurs circonstances, il eut avec le Seigneur Jésus des entretiens cachés dont il n'est pas permis aux hommes de parler. Cela, le dévot prieur le fait entendre parfois en ses livres et le bon cuisinier le rapporte lui aussi, car ce dernier le vit un jour élevé en une telle gloire qu'à ce moment, personne parmi les vivants ne le surpassait en mérite. Tout ceci, c'est très bien, mais Rosbrock fut, comme presque tous les saints, tourmenté par Satan. Alors, on racontait que le diable, antique rival du salut des hommes, s'efforçait de lui susciter de grandes tentations. Il venait souvent sous la forme d'un crapaud ou de toute autre bête malfaisante. C'est lui-même qui le rapportait à ses frères les plus familiers. Très souvent, quand il prévoyait la venue du diable, il se prémunissait contre lui avec des armes spirituelles. Ainsi, il arriva un jour qu'étant couché dans une petite chambre et en compagnie du supérieur du monastère, en raison de sa vieillesse, il perçut l'approche de l'ennemi et s'écria, de sorte que le supérieur l'entendit, « Mon père, voilà qu'il vient! Mon père, voilà qu'il vient !» Mes amis, nous vous présenterons les œuvres de Rosbrock dans un prochain enregistrement.